Amis auditeurs de Radio Acidule et de Résistance en direct, bonsoir. L'émission Résistance en direct est prévue toutes les deux semaines, le mercredi de 18h à 18h30. En revanche, cette fois, il y a une dérogation et il est probable qu'à l'avenir, cette émission subisse un léger décalage et ait lieu entre 19h et 19h30. Résistance en direct sur Radio Acidule 102.8 MHz vous entretient aujourd'hui d'une bien pénible chose. Il s'agit du décès de notre ami Juan Manuel Méndez Torre, espagnol de 39 ans et plus précisément basque de Bilbao. Et il est décédé le 21 août 89 à Bochu, suite à une crise cardiaque, non assistée du médecin ni de l'infirmière. C'est une pénible affaire parce que la presse a tenté de l'étouffer en invoquant des propos infantiles et maladroits de Pedrazzini, qui est le chef du service pénitentiaire vaudois. Et le directeur Clotti a tout fait pour rendre banal ce décès. Mais ce décès n'est pas banal. Il y a plusieurs témoins, dont un gardien de prison, qui, lui, a décidé de ne pas laisser passer ça. Et une autre personne, un autre témoin, est une de nos amies, une espagnole, qui est déjà allée plusieurs fois, de nombreuses fois depuis 3 ou 4 ans déjà, à Bochu, et qui ne veut pas non plus laisser passer ça. Elle est témoin de premier ordre, puisqu'elle connaissait le défunt, et elle connaît d'autres sud-américains et espagnols à qui elle va rendre visite. D'autre part, les détenus ont rédigé un texte que je vais vous lire, et qui montre la vérité. Vous allez pouvoir en juger vous-même. Ce texte est à l'intention de monsieur le directeur des établissements de la Plaine de l'Orbe, c'est-à-dire de Clotti, et elle concerne le service médical. Monsieur, après le décès subi de notre camarade Juan Méndez et les circonstances dans lesquelles il est survenu, nous, prisonniers de Bochu, avons confronté nos propres constatations au sujet du service médical de l'établissement. Constatations qui nous ont menés à l'élaboration de la présente pétition, dont vous voudrez bien prendre note. Il est triste de songer qu'il aura fallu un décès, un de plus, pour nous pousser à désirer un encadrement médical plus près de la condition humaine. Mais voyons plutôt les circonstances du dit décès. Juan était un Espagnol de 39 ans, père de 2 enfants, arrivé à Bochu en mai 89 pour y purger une peine à laquelle vos juges, l'âme tranquille, l'avaient condamné. Comme tout arrivant, il effectue d'abord une semaine en cellule dite d'observation, durant laquelle il subit une visite médicale où l'on ne décèle rien. Après quoi, il est affecté à un poste de travail qu'il remplit sans problème. D'ailleurs, Juan était un garçon simple, gentil et apprécié de tous. En juin, il commence à ressentir de violentes douleurs au niveau du cœur, si violentes qu'elles l'amèneront plusieurs fois à ne pas se présenter à son travail. Cependant, Juan est optimiste et pense que cela s'arrangera. Aussi ne prend-il pas la peine de demander un entretien avec le docteur. Au début d'août, en pleine nuit, il subit une première crise légère, mais cette fois, la peur est là, qui le pousse à appeler le gardien de nuit. Celui-ci ne décèlera rien, mais l'angoisse de Juan est si forte que le surveillant prendra sur lui de rester avec lui quelques instants et lui conseillera d'aller voir le service médical. Le lendemain, Juan refuse d'aller travailler et rencontre le docteur Bridel, à qui il parle de ses douleurs et demande un examen par un cardiologue. Monsieur Bridel se rit de ses peurs et refuse l'examen en lui prescrivant de simples calmants pour baisser sa tension, puis le renvoie au travail. Pendant les semaines qui vont suivre, Juan va aller de mal en pis et les cachets qui font baisser sa tension le déstabilisent et le dépriment encore plus. Suit un nouveau contact avec le docteur Bridel, qui le renvoie avec une vague promesse d'un examen cardiologique. Le mois s'écoule sans nouvelles, jusqu'au jeudi midi 17 août, où il fait une nouvelle crise. Du coup, il cesse toute activité et redemande une nouvelle fois un entretien médical avec M. Bridel. Ce dernier ne donne pas suite. Au matin du lundi 21 août, Le détenu L, ami de Juan, passe à 7h05 voir si celui-ci va mieux. Juan se lève avec peine et lui déclare être très mal. L lui conseille d'insister auprès d'un gardien pour aller à la visite médicale, puis sort travailler. Quelques minutes plus tard, le préposé aux interphones des cellules reçoit l'appel de Juan Mendes qui appelle à l'aide. Arrivé dans la cellule, on le trouve inanimé et on le transfère à l'hôpital où l'on ne peut que constater le décès. Devant de tels faits, on pourrait chercher à trouver des excuses au service médical en général et au docteur Bridel en particulier, ne dit-on pas, l'erreur est humaine. Nous ne sommes malheureusement pas habilités pour nous prononcer sur les connaissances et l'expérience médicale du docteur Bridel. Cependant, un fait presque similaire et qui aurait pu avoir la même fatale conséquence survenue il y a un peu plus d'un mois nous autorise à mettre en cause sa conscience professionnelle. Voici le récit de ces ressortissants français, 42 ans, un enfant, arrive à Bochu en septembre 88. Il subit, comme tout le monde, une visite médicale où on lui déclare que tout va bien. Pendant 10 mois, il occupe le poste de bibliothécaire de la prison où sa grande érudition et ses conseils éclairés le font apprécier de tous. Soudain, au mois de juillet, il est pris de nausées, vertiges et faiblesses si intenses qu'il ne peut monter les escaliers pour regagner sa cellule. Il perd 6 kilos et fait 2 syncopes en une semaine. Le docteur Bridel, encore lui, amené à se prononcer, diagnostique une faiblesse passagère due au climat. LB vit d'ordinaire en Thaïlande et prescrit une cure de vitamine C. Une semaine plus tard, son état ne s'améliorant pas, bien au contraire, un codétenu de Stéphane prend sur lui d'écrire une lettre au directeur en le sommant de prendre ses responsabilités. Dès réception de la lettre, ce dernier, peut-être mieux au fait des capacités du docteur Bridel, fait transférer le Breton au quartier cellulaire de Genève, où il est conduit en état d'extrême faiblesse, non pas en ambulance, mais en fourgon cellulaire avec les menottes au poignet. Avec les arrêts sur d'autres centres de détention de Romandie, il mettra 4 heures pour arriver à Genève. Il est enfin admis à l'hôpital où l'on diagnostique d'office une bronchopneumonie fulgurante. Il est aussitôt placé pendant 4 jours aux soins intensifs et évite de justesse l'intubation. En outre, il apprend, alors qu'il l'ignorait, être séropositif et qu'au stade de sa maladie, il peut espérer au mieux encore 2 ans et demi d'existence. Au retour à Bochu, il y a 2 semaines, et encore sous le choc, le Breton demande à voir le docteur Bridel, afin d'éclaircir la situation et savoir pourquoi ce dernier ne l'avait pas informé de sa maladie. Le docteur lui répond « Je ne vous répondrai pas, je ne veux pas polémiquer. » Ce n'est pas tout. L'hôpital de Genève avait contacté M. Bridel pour lui demander de faire à Stéphane des inhalations 2 fois par mois à l'hôpital d'Orbe, ceci afin de prévenir une rechute de sa maladie. Or, vendredi 18 août, jour prévu pour la première de ces séances, le Breton, transféré avec menottes à l'hôpital d'Orbe, apprend que le docteur Bridel n'a pas prévenu l'hôpital et que les médicaments ne sont pas là. Prenant son mal en patience, le Breton décide de prendre sur sa sortie en congé du lendemain pour revenir se faire soigner. Il prévient donc le service médical de la prison en conséquence. Service qui n'a pas pris la peine de contacter l'hôpital, puisqu'aux dernières nouvelles, Stéphane Le Breton arrive le bas, n'a toujours pas trouvé ses médicaments et a décidé de se faire la belle pour aller se faire soigner correctement en France, où nous lui souhaitons encore une longue route sans calvaire. Le récit de ces 2 aventures paraîtrait burlesque au cinéma, tant les rebondissements de tout genre foisonnent. Mais ici, les rebondissements sont faits d'inaptitude et de mauvaise volonté dans l'exercice d'un métier pourtant si noble. Aussi, n'y ajouterons-nous point de commentaires. Nous nous contenterons de dire « Bye, Juan. Bye, Stéphane. Vous étiez des hommes que l'on respectait et admirait, non pas pour vos crimes, mais pour votre sens de l'humain qui vous rendait si gentil, si disponible. » Outre ces 2 cas, et sans parler des malades imaginaires ni des toxicomanes qui harcèlent le service médical pour un surplus de médicaments, nous pourrions pratiquement remplir un bottin téléphonique avec les cas plus ou moins graves où le docteur Bridel, loin d'améliorer notre état de santé, se bornait à diagnostiquer un cas psychosomatique et de prescrire des vitamines. Psychosomatique, monsieur Bridel. Le cas de Kovacsi, qui en 84 faisait une crise cardiaque à 10 heures sur le terrain de football et qui a attendu avec l'aide de deux aspirines, quel brave malade, jusqu'à 13h30 que vous daigniez bien vous déplacer et constater un décès qui aurait pu être évité. Il résulte de tout cela une constatation, que le service médical est très mal appliqué et qu'aujourd'hui, la coupe est pleine. C'est pourquoi nous demandons A. La suspension immédiate du docteur Bridel jusqu'à conclusion de l'enquête. B. Quel que soit le résultat de cette dernière, le remplacement dans les plus brefs délais du docteur Bridel ainsi qu'une réorganisation au sein de l'équipe médicale. C. Une permanence médicale sur place durant la nuit et le week-end. Nous sommes tous conscients de beaucoup demander. Quoique nous savons par expérience que d'autres prisons bénéficient de ces avantages, alors pourquoi pas nous ? Estimons que nos demandes sont justifiées. Il vous faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous nous vivons avec la peur que ce qui est arrivé à nos deux camarades, pour ne citer qu'eux, puisse nous arriver à nous. Il suffirait qu'un détenu séropositif et ignorant de sa maladie prête son rasoir à un camarade, par exemple. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir donner suite à notre pétition au plus vite. Nous sommes ouverts à toute discussion, cependant comme trop souvent, nos revendications ont été prises à la légère et dans l'intention de bien vous faire prendre conscience de l'impératif de notre volonté, nous vous informons, vous laissez 10 jours de réflexion, soit jusqu'à la fin du mois. Si aucune tentative de conciliation ou aucune mesure n'est prise à compter de ce délai, il vous faudra vous attendre à des événements dont nous ne répondrons plus. Respectueusement, les détenus de Bochu. Et en post-scriptum, pour complément d'information, voir la plainte déposée par M. Lohor contre le docteur Bridel. Et il y a des copies au docteur Bridel, à M. Pedrazzini, au Conseil d'État, à l'Association de défense des prisonniers, à la presse et à la télévision romande, à la femme de Juan Mendes et au consulat espagnol. Nous voyons donc que, chers amis, les prisonniers sont loin de bénéficier de soins et la légende qui court au sujet de ces fameux hôtels 3 étoiles est entretenue, hélas, par la chienlit du pouvoir et par les quelques propos de la racaille. Monsieur Pedrazzini, le chef du service pénitentiaire a répondu, a tenté de répondre de manière très infantile à cette lettre et il dit par exemple que il rend sans objet cette suspension immédiate parce que le docteur Bridel est en vacances. Je lis ensuite que il ne veut pas négocier sous la menace. Est-ce que cette digne missive qui a été adressée à Pedrazzini par les gens de Bochu, est-ce que cette missive a quelque chose de menaçant ? Non. Or, une fois de plus, on constate que depuis son entrée en scène le 1er juillet 87, Pedrazzini n'a pas fichu grand-chose en tant que directeur. Il se l'est coulé douce et il n'a absolument rien modifié dans le sens d'une amélioration. Ceci est grave. Nous allons, chers amis, nous n'allons pas, nous aussi, nous non plus laisser passer ça, et nous allons convoquer une conférence de presse très prochainement. Et nous espérons que les ondes de la radio officielle se prêteront aussi à ces doléances, afin que les prisons suisses, et en particulier celle de Bochu, ne soient plus l'antichambre de la mort. Chers amis de Résistance en direct, je vais interrompre mes propos ce soir en vous rappelant que du 3 au 31 octobre 89, Angelo Donadoni, le peintre qui est emprisonné à Bochu, va donner des toiles à la galerie Solano à Genève, 24 Pictet de Rochemont, et que vous pourrez aller admirer ces merveilleuses toiles. Angelo Donadoni est un homme tout à fait remarquable, et c'est un grand peintre, et à Bochu, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher que ces toiles puissent être publiées. Et il a aussi écrit un livre, Angelo Donadoni, et il sort récemment, il a été mis au cachot encore pour des provocations par le milieu pénitentiaire où il se trouve, des provocations de Clotilde. Et nous espérons que, envers et contre tout, ces toiles pourront continuer de voir le jour. Enfin, amis prisonniers, n'oubliez pas, préparez-vous à voter l'initiative pour une Suisse sans armée. En votant contre l'armée, vous ébranlerez tout le dangereux système hiérarchique qui vous opprime et qui nous opprime. Et ceci sera peut-être le début d'une marche vers la liberté. Chers amis, à mercredi prochain.
est écrit. Alors, je viens d'arriver, perdu, seul, ici. Je peux rien expliquer, juste caresser la mélodie de ma voix. Ma voix cassée.
Remember, baby. chanson-là est toujours dédiée à Nelson Mandela. Elle s'appelle Noir et Blanc. Si vous la connaissez, vous pouvez la chanter avec moi. Si vous la connaissez pas, vous la découvrirez. Anyway. C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais. Y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée. Ses ongles sur le blindé, ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
Mais avec des mots, on passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Ils font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays. J'ai un nouveau batteur, c'est mon fils Guillaume qui a 13 ans, avec la casquette. Deviens mieux, alors écoute, je transmets. Ça dépend des latitudes, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Ils font grincer les dents des grands libérateurs. De n'importe quel pays. J'adore ça. C'est une ville que je connais, une chanson que je chante, une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays.